Vous le savez, le Conseil propose à l'Église une révision de notre confession de foi et nous aurons à voter comme Église ultérieurement, mais nous pensons juste de présenter élément par élément ce projet qui vous est soumis en l'expliquant très brièvement dimanche après dimanche. La confession de foi, c'est un peu comme la constitution dans l'État. C'est un texte fondamental dont il faut peser tous les termes. Il ne faut pas en dire trop, il ne faut pas en dire trop peu. C'est la règle. Alors évidemment, à cause de ces contraintes, elle n'est pas toujours très facile à lire d'emblée. Ce n'est pas simplement comme un article de journaliste. Et un petit peu d'explication peut être utile. Les quatre premiers articles ont été déjà expliqués et la situation dans laquelle se trouve l'humanité, créature de Dieu, mais dévoyée par sa propre faute, a déjà été exprimée, désignée, expliquée. Et avec l'article 5, dont nous avons une première moitié dans le texte qui vous a été remis, qui est sur le feuillet, dans cet article 5, c'est vraiment le cœur de l'Évangile, c'est le centre de notre foi qui est en cause, ce qui nous fait vivre. Dans cette situation misérable dans laquelle se trouvait l'humanité, Dieu est intervenu. C'est la bonne nouvelle. Et les deux paragraphes qui se trouvent dans le feuillet sont là pour énoncer cette bonne nouvelle. Le premier des paragraphes souligne que c'est la clé du sens de toute l'histoire humaine. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas, quand l'humanité s'est rebellée contre lui, mis simplement fin à l'opération en disant « c'est raté, j'efface tout, je recommence ». Pourquoi Dieu n'a-t-il pas condamné et volatilisé les créatures qu'il avait faites et qui avaient eu la folle méchanceté de lui désobéir, de l'insulter par un manque de confiance? Pourquoi? Si l'histoire a continué, c'est que Dieu, dans son amour, n'a pas voulu laisser les créatures faites en son image, que sont les humains, à ce sort. Et il a préparé un remède qu'il a apporté en la personne de Jésus, Jésus notre Seigneur et Sauveur. Et toute l'histoire prend son sens de là. Et puis Dieu a spécialement préparé la venue de Jésus. La Bible ne commence pas par l'histoire de Jésus. Elle commence, c'est même la plus grande part, par bien des livres qui racontent l'histoire d'Israël, les institutions que Dieu a données à Israël, qui consignent des prophéties. Et notre premier article de confession de foi souligne que Jésus est l'accomplissement de tout ce temps de préparation, que tout a été organisé par Dieu pour lui, en vue de sa venue, et qu'il est celui que les prophètes avaient annoncé, c'est-à-dire le Messie ou le Christ. Le mot Christ, c'est simplement la forme grecque du mot Messie. Et le Messie, c'est celui qui a reçu l'onction sainte, qui désigne le roi, le prêtre, qui va être l'agent du Seigneur, celui qui a été sacré roi, prêtre et prophète par Dieu. C'est là le sens du mot Messie. Alors nous affirmons notre foi qu'il est, lui Jésus, le Christ annoncé par les prophètes, qu'il opère la rédemption et la réconciliation. La rédemption, c'est une image tirée du temps de l'esclavage. Rédemption, ça veut dire l'action de racheter. Lorsque quelqu'un paie une rançon, le prix d'un esclave, il le rachète. Et ainsi, il est libre. C'est ce qu'a fait Dieu en nous donnant Jésus-Christ. Jésus-Christ a versé son sang en rançon pour nous racheter. C'est là le grand prix auquel nous avons été rachetés. Et l'affirmation de notre premier article, c'est aussi que Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, comme le dit la première épître à Timothée, le seul chemin qui conduit au Père. Le chemin, c'est l'image qui correspond au mot médiateur. Le médiateur, c'est celui qui se met entre deux personnes pour qu'elles soient réconciliées, pour que ça s'arrange entre elles, pour que le courant passe, pour que la communication s'opère. Jésus-Christ est le seul médiateur. Bouddha, Mahomet, Confucius ne sont pas médiateurs. Il n'y a qu'un seul chemin, et nous l'affirmons dans notre confession de foi. Et pour qu'il joue ce rôle, il a fallu, ça c'est le deuxième paragraphe, il a fallu qu'il soit un homme, comme nous, tout en restant Dieu même. Car il fallait que Dieu et l'homme fussent réconciliés, puissent être réunis. Jésus est le parfait médiateur, parce qu'il n'est pas seulement entre les deux, mais qu'il est Dieu même d'un côté, homme intégralement de l'autre. C'est là la merveille. On ne peut pas penser de médiateur supérieur à Jésus. Il est plus excellent que tout médiateur que n'ont jamais pu rêver les hommes. Étant vrai Dieu, Dieu de Dieu, dit notre confession de foi, c'est une expression qui vient du symbole de Nicée, où l'Église ancienne a confessé cette vérité biblique. Il n'est pas un sous-Dieu, il n'est pas une super-créature seulement, comme l'enseignent les témoins de Jéhovah par exemple. Il est Dieu, Dieu de Dieu. Mais n'empêche, il est homme, il s'est rendu semblable à nous en tout, hormis le péché. Jusqu'à ressentir la force de la tentation. Il a été tenté comme nous en toutes choses, dit l'Écriture dans l'Épître aux Hébreux, mais sans péché. Parce que s'il avait péché, il n'aurait pas pu nous sauver. Il aurait dû payer pour ses propres fautes, et c'était fichu pour nous. C'est parce qu'il a pu payer pour nous, à notre place, comme victime parfaitement pure, sans péché, qu'il a pu être notre sauveur. Et nous affirmons dans le deuxième paragraphe, cette pureté parfaite, cette sainteté entière de Jésus et sa parfaite humanité en même temps. Il est tout près de nous pour avoir compassion de nous dans nos faiblesses, mais il est fort de la force de Dieu et de la force de sa sainteté immaculée pour nous secourir dans nos faiblesses. Voilà l'élément de foi qui est formulé dans les deux paragraphes que vous pourrez méditer encore à la maison. Je signale qu'il y a simplement une faute de frappe à la troisième ligne. Il faut lire après l'avoir préparé par ses interventions, c'est-à-dire l'envoi de Jésus a été préparé. Le L apostrophe qui a sauté à la frappe est un pronom pour l'envoi de Jésus. Voilà donc un mot d'explication sur ces deux éléments de la confession de foi. Et maintenant, nous allons nous répartir en deux groupes, donc, ceux qui souhaitent en savoir plus. Puis Daniel, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, nous abordons un sujet qui n'est pas si souvent abordé, qui est un peu délicat à divers points de vue. En tout cas, il remue nos émotions, tout naturellement. Le sujet de la guerre, il a été un sujet demandé, donc je m'exécute, j'essaie de vous communiquer ce que j'ai compris de l'Écriture, et c'est en deux fois que nous devons le traiter. Habituellement, quand on en parle dans les églises, c'est pour répondre à la question, le chrétien peut-il faire la guerre? Le chrétien peut-il porter les armes? Il nous faudra bien aborder ce sujet, mais il me semble utile de ne pas commencer par lui, de commencer par une vue qui soit davantage une vue d'ensemble sur le fait, le sens de la guerre dans une vision plus générale. Donc aujourd'hui, ce n'est pas de la question de savoir s'il faut être objecteur de conscience ou non quand on est chrétien que je vais traiter, c'est ce que je vais parler. Ce sera pour la seconde étude qui est prévue. Et j'ai pensé à la lecture suivante pour introduire dans le livre de l'Apocalypse, la suite du chapitre que nous avons lu tout à l'heure. Le livre que seul l'agneau immolé peut ouvrir et qui est scellé de sept sceaux représente, à mon avis, le livre du plan de Dieu pour l'histoire du monde. Et après la vision du chapitre 5, il est question de l'ouverture des sept sceaux successivement, et je lis les 11 premiers versets du chapitre 6. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept sceaux, et j'entendis l'un des quatre êtres vivants dire comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai, et voici un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant dire « Viens !» Et un autre cheval, rouge feu, sortit. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'ôter la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant dire « Viens !» Je regardai, et voici un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main, et j'entendis comme une voix au milieu des quatre êtres vivants. Elle disait « Une mesure de blé pour un denier, et trois mesures d'orge pour un denier. Quant à l'huile et au vin, n'y touche pas. » Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant dire « Viens !» Je regardai, et voici un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage rendu. Ils crièrent d'une voix forte, « Jusque à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit au complet leurs compagnons de service et leurs frères qui allaient être mis à mort comme eux. Jusqu'ici, notre lecture. Importance, actualité du sujet de la guerre. La guerre remplit les livres d'histoire. Et nos journaux, nos actualités télévisées lui donnent une part qui reste considérable. La Bible, elle aussi, lui fait une très grande place, si l'on y songe. Quand on considère les livres dits historiques, les récits qu'elles nous rapportent, mais il s'agit le plus souvent de guerres. J'ai un souvenir qui me fait un petit peu sourire. Je ne sais pas s'il fait encore sourire M. Berger. Il y a fort longtemps maintenant, plusieurs dizaines d'années, nous avions une petite étude biblique chez M. et Mme Berger à Livry-Gargan, et nous étudions les livres de Samuel. Et je devais expliquer ce qu'il y avait dans les textes, donc je parlais beaucoup de guerre, de stratagèmes, de batailles, et je crois que M. Berger souffrait beaucoup. Et oui, la Bible nous parle très souvent de guerre. Dans les visions de l'Apocalypse, c'est aussi très, très fracassant. Et il suffit d'ailleurs de considérer aussi les tableaux que notre frère Jacques Richard a composés en sous l'inspiration de sa lecture de l'Apocalypse, pour nous rendre compte de la part qui prennent les conflits, les armes, les horreurs qui sont associées à la pensée de la guerre. Il y a aussi les prophéties, les prophètes qui parlent tellement de batailles, d'armées. Il y a les métaphores. Les guerriers, le service des armes sert très très souvent aussi dans le langage, non plus au sens littéral, mais de façon transposée, mais c'est très 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 fréquent. Combat, le bon combat. Nous avons retenu cette formule pour notre journal d'église. Et dès qu'on se met à y penser, on se rend compte de l'importance si lourde de la guerre dans l'histoire des humains, sans parler même des pertes en vies humaines, et donc des drames individuels si nombreux. Simplement si on songe aux effets économiques et écologiques. Mais que serait la Terre s'il n'y avait pas eu de guerre? Quel jardin délicieux, rien que les frappes prétendument plus ou moins chirurgicales de l'OTAN en Serbie, mais on produit des dégâts écologiques. Par rapport à ces dégâts-là, de quelques jours de guerre, ce que produisent d'autres causes de dégradation, mais sont vraiment tellement peu de choses. Dès qu'il s'agit de guerre, les désastres qui en résultent. On peut aussi d'ailleurs parler des inventions, des progrès techniques que les guerres ont stimulé singulièrement. Où en serions-nous? Nous en serions peut-être encore au bateau à voile, sans la pression, l'aiguillon de la nécessité militaire. Donc une importance énorme dans la vie de l'humanité. Et on pourrait encore relever à ce sujet qu'un type humain a été repéré, et qui est un des types humains principaux, qui est le type du guerrier, l'homme de guerre. Il représente un certain modèle parmi les grands types de spécialisation humaine. Plusieurs fois, les hommes ont eu l'illusion, correspondant à leur grand désir, que la guerre soit complètement éradiquée, qu'il n'y ait plus de guerre. Les poilus de la guerre 14-18 disaient que c'était la guerre des dères, qu'après ça, après une telle boucherie, il ne saurait plus être question de guerre. Et la Société des Nations a été fondée avec le grand espoir qu'elle permettrait de résoudre tous les différends sans qu'on ait recours à la guerre. Et il y a eu en 1928 un pacte qui mettait la guerre hors la loi en quelque sorte, le pacte de Paris, le pacte Kellogg brillant, Aristide brillant, signé par des dizaines de nations ensuite, et on sait ce qu'il en est advenu de ces espoirs. Lorsque le mur de Berlin est tombé, après plusieurs décennies où nous avons vécu dans la crainte, tous les occidentaux, d'une attaque du bloc de l'Est et la pensée d'une guerre mondiale, certains ont cru que c'était fini maintenant. Certains ont dit c'est la fin de l'histoire, maintenant c'est la démocratie partout, plus de problème. Et puis depuis, vous savez ce qui s'est passé dans diverses régions, même d'Europe. C'est dire que la prophétie de Jésus, qui nous indique assez clairement qu'il y aura des guerres jusqu'à la fin, et que même il y aura beaucoup de guerres vers la fin, cette prophétie se trouve bien vérifiée par l'expérience humaine. C'est dans le chapitre 24 de Matthieu et les parallèles en Marc et Luc que l'on trouve cette parole, et je la lis, Matthieu 24, verset 6. Vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver. Jésus ne nous laisse pas caresser l'utopie d'une évolution en douceur de l'histoire des hommes qui pourrait aboutir à une situation sans guerre. Dans un autre passage, il dit que c'est quand les hommes croiront, sans doute, y arriver, ils diront « paix et sûreté ». C'est mot-clé du langage de la diplomatie internationale. « Paix et sûreté » qu'une ruine soudaine les surprendra. Donc, la guerre comme un fait majeur dans toute l'histoire passée de l'humanité et d'après la Bible, de toute l'histoire de l'humanité jusqu'à sa fin, sa conclusion par le retour glorieux de Jésus. Quelle définition donner de la guerre? Je vous propose cette définition suivante. C'est l'emploi de la force armée décidée et mise en œuvre par les autorités responsables d'une collectivité politique pour contraindre celle d'une autre à accepter ce qu'il refusait. Il me semble que là nous avons une définition qui cerne bien ce qu'est la guerre. C'est l'usage à une force armée. Et lorsqu'on parle de guerre commerciale, par exemple, c'est un langage métaphorique ou analogique qu'on emploie. C'est pas strictement une guerre. C'est pas vraiment la guerre. C'est l'usage de la force armée entre deux collectivités politiques. Là encore, il nous vaudra mieux ne pas parler de guerre, même si on le fait parfois, mais c'est un usage analogique. Lorsqu'il s'agit de conflits personnels ou de groupes, de bandes qui s'affrontent, ou bien quand on dit la guerre des sexes, par exemple, il ne s'agit pas de deux collectivités politiques qui ont une structure d'autorité dont les autorités prennent la décision d'entrer en guerre. Je prends le mot donc dans le sens strict et fort, où on peut même distinguer, j'ai lu ça dans les textes que j'ai lus pour me préparer, entre la guerre et puis les opérations de pacification, par exemple. Quand il n'y a pas une collectivité politique déterminée en face, ou la répression d'une insurrection, c'est pas strictement, au sens précis du terme, la guerre. Alors c'est une action de la force armée pour contraindre les représentants de l'autre collectivité à accepter ce qu'ils refusent. Cela montre bien la vérité de ce que Karl von Clausewitz a dit, que la guerre est la politique continuée par d'autres moyens. Entre deux collectivités, il y a des revendications, il y a des pressions, et c'est la politique internationale qui a sa composante commerciale, etc. C'est quand il y a refus et insistance au-delà de ce refus des représentants d'une autre collectivité qui vont jusqu'à user de la force armée, qu'alors on passe à l'état de guerre. Et on peut noter que ces guerres peuvent se distribuer sur tout un éventail ou une échelle de degrés divers. Il y a des guerres qui restent extrêmement limitées pour un objectif tout à fait précis. On fait la guerre pour avoir ce petit coin de territoire à la frontière, et puis quand c'est acquis, si l'autre vaincu accepte, la guerre est finie, la paix est signée. Et puis on va de ces guerres qui n'ont pas, à certaines périodes de l'histoire, affecté beaucoup de la population, quelques milliers d'hommes représentant deux souverains, pour un objectif très, très particulier. On va donc de cet extrême à l'autre extrême, qui est la guerre d'extermination, avec génocide, où ce que l'on veut exiger de l'autre, c'est qu'il disparaisse, c'est que sa population soit anéantie. Donc le mot guerre peut couvrir une gamme assez diverse de, disons, de pression par la force armée, avec pour extrémité l'extermination. Si nous avons bien défini, comment considérer la guerre, en particulier à la lumière de la Bible? Mon premier point, j'en ai trois, bon, je vous les annonce tous les trois pour que vous ayez une petite idée, mais mes titres sont quand même un peu sibyllins, donc vous ne saurez pas ce que je vais dire tout de suite. Phénomène d'un monde pécheur, premier point. Deuxième point, nécessité d'après le Seigneur, parfois. Et puis troisième point, du coup, mal ambigu, parfois moindre. Mais d'abord, à n'en pas douter, phénomène d'un monde pécheur. La guerre est associée au mal par l'Écriture dans le verset 6 de l'Évangile de Matthieu. Il est question de la guerre, mais dans les versions qui suivent, des famines, des tremblements de terre. Nous avons manifestement une association avec ce qui est considéré comme mal et douloureux. D'ailleurs, Jésus parle des douleurs, dit le commencement des douleurs. Donc, association au mal. Et c'est bien ainsi que la grande majorité des êtres humains perçoit la guerre du côté du mal. Il y a un vers du poète latin Horace qui dit « Les guerres abhorrées des mères ». Eh oui, ce sont les mères qui voient leur fils partir massacrer, mutiler, qui détestent peut-être le plus les guerres, mais elles représentent d'abord une bonne moitié de l'humanité, et puis bien d'autres encore se joignent à elles pour détester la guerre. Et la Bible promet que quand le dessein de Dieu s'accomplira, que son œuvre aboutira pleinement, la guerre sera supprimée. C'est là une très grande promesse des prophètes, et je lis quelques versets qui le proclament très fortement dans le livre de Michée, par exemple, au chapitre 4. Il est question de la vision finale, elle nous est déployée en quelque sorte, et au verset 3, il est promis que l'Éternel sera juge entre des peuples nombreux, il sera l'arbitre de nations puissantes, lointaines, de leurs épées, ils forgeront des socs, et de leurs lances des serpents. Pourrions dire, des chars d'assaut, ils font des tracteurs. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Une très belle promesse dans ce passage qui trouve son écho chez un prophète de la même époque, et cette fois avec une concentration sur la personne qui rendra possible cette abolition de la guerre. Nous allons évoquer ce passage au moment de Noël, parce qu'il y est question du Messie qui doit venir comme d'un enfant qui nous est donné. Durant la nation nombreuse, Ésaïe 9, verset 2 et suivant, tu lui dispenses la joie, elle se réjouit devant toi de la joie des moissons, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin, car le joug qui pesait sur elle, le bâton qui frappait son dos, la massue de celui qui l'opprime, tu les brises, comme à la journée de Madian, car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout manteau roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Tous les uniformes, toutes les armes. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Renforcer la souveraineté et donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Très belle promesse qui se trouve manifestement confirmée dans le Nouveau Testament. La vision de la fin de l'Apocalypse, c'est une vision où il n'y aura plus aucun deuil, plus de larmes. Cette vision de la Jérusalem que Dieu prépare au chapitre 21 et 22. Nous pouvons détailler un petit peu cette association de la guerre au mal. Je pense qu'on peut d'abord constater que la guerre est un mal dans ses effets. Elle est destructrice, et en particulier d'êtres humains en image de Dieu. Or, Dieu ne voulait pas que cette créature d'élection et de dilection pour lui, la créature bien-aimée qu'il avait faite en son image, soit supprimée par la violence sur la terre. Il lui destinait une vie éternelle, et donc c'est contrairement à la volonté de Dieu que la guerre tue un très grand nombre. Le chapitre 9 de la Genèse, verset 6, après le déluge, énonce la loi que celui qui versera le sang de l'homme devra être puni. Que celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. On peut aussi souligner la corruption morale qu'entraîne habituellement la guerre. J'ai dans mes lectures noté une phrase d'un auteur allemand du XVIIe siècle, mais je pense que n'importe qui en un sens aurait pu le dire. À la guerre, la plupart des gens deviennent pires plutôt que meilleurs. C'est bien ce que l'on constate. S'il y a dans l'état de paix quand même une certaine discipline qui contient les débordements du mal humain, en particulier de la cruauté, à la guerre, elle se donne libre cours. Et on est frappé d'apprendre que tel ou tel bourgeois respectable, qui était marchand de charbon, psychiatre, ou n'importe quoi, devient à la guerre un criminel de guerre, un bourreau qui torture de la manière la plus maligne. Ça s'est produit, là encore, tout récemment, en Serbie, et la Serbie est à nos portes, et ça s'est passé de la même façon en France pendant les années de la Deuxième Guerre mondiale, et dans certains cas aussi en Algérie. Nous savons que la guerre déchaîne les horreurs du mal humain. C'est là quelque chose qu'on ne peut pas ne pas rattacher au fait de la guerre lui-même. Puis on peut dire, me semble-t-il, que la guerre est un mal selon ses causes ou ses mobiles. Qu'est-ce qui cause la guerre le plus souvent? C'est le mépris de l'autre, c'est la convoitise. On a envie de ravir ce qu'il a et qu'on voudrait posséder en soi-même. C'est l'orgueil aussi. L'orgueil qui conduit les chefs à vouloir toujours accroître leur pouvoir. C'est parfois la peur, la mauvaise peur. Il y a des peurs qui sont raisonnables, mais très souvent la peur représente une tentative frénétique d'être le maître de sa propre vie, de tout maîtriser, au lieu de reconnaître sa dépendance à l'égard de Dieu et de dépendre de lui. Dans l'épître de Jacques, il y a un verset qui se rapporte aux guerres au sens analogique, je pense, les guerres comme disputes dans l'Église. Mais quand même, le mot habituel de guerre est employé, le mot qui est habituellement traduit guerre, et je crois qu'il est intéressant pour nous de lire ce passage au chapitre 4, verset 1er de l'épître de Jacques. D'où viennent les guerres? C'était l'ancienne traduction, maintenant dans la version à la Colombe, c'est les luttes. D'où viennent les querelles ou les combats parmi vous, sinon de vos passions qui guerroient dans vos membres? Trois termes qui évoquent la notion de guerre dans ce passage, et c'est rapporté aux passions qui habitent l'être humain. La guerre nous est présentée dans la perspective biblique, je crois, assez clairement comme une manifestation du péché dans lequel l'être humain est emberlificoté, dont il est imprégné, ce qui me permet de dire que la guerre est un phénomène du monde pécheur. Phénomène veut dire manifestation, ce par quoi il apparaît. On peut peut-être faire encore un pas de plus en considérant la guerre sous l'angle du mal, en disant qu'il semble bien que des forces surhumaines soient à l'œuvre lorsque des nations sont en guerre les unes contre les autres. C'est une signification possible au moins du passage de l'Apocalypse que nous avons lu. Les sceaux représentent donc ce qui marque, détermine ce livre du plan de Dieu. Quand un sceau est brisé, ce sont les grandes forces qui meuvent l'histoire, qui sont en cause. Et vous avez remarqué ces forces qui sont désignées ici, ces forces de la violence, de la guerre, de la famine aussi, de la mort, représentées par ces chevaux et ces cavaliers. Étant donné la manière dont parle l'Apocalypse, on peut se demander s'il ne représente pas des forces spirituelles, de ces forces dont Paul dit qu'elles dirigent notre monde tel qu'il est, le monde pécheur. Au chapitre 6 de l'Épître aux Éphésiens, il parle de ces esprits malins dans les zones célestes qui sont régisseurs du monde, régisseurs de ce monde de ténèbres. Et ce qui me semble confirmer cette pensée, je ne dis pas qu'elle soit absolument prouvée, mais qui me semble confirmer, c'est au chapitre 10 du livre de Daniel, l'étrange vision qui nous est donnée des coulisses de l'histoire. Les anges du royaume de Perse, combattant celui qui parle à Daniel, et il y a l'ange du royaume de Grèce. Il semble que là, il s'agisse de ces principautés, de ces esprits célestes qui sont à l'œuvre dans la politique des nations, qui animent leur culture et leurs actions politiques. Donc un aspect surhumain qui dépasse les forces humaines et les simples jeux de la psychologie humaine dans la guerre. Une sorte de folie qui les entraîne. Et il y a une puissance comme un vent de méchanceté qui souffle, qui entraîne tout le monde. C'est en tout cas une hypothèse qui a été reçue dans le judaïsme à l'époque biblique et qui me semble pouvoir être appuyée par ce chapitre 10 du livre de Daniel. Et on peut signaler d'ailleurs que les chefs politiques des nations assez souvent ont recours à l'occultisme, dont nous savons qu'il rend vulnérable à l'action de ces puissances spirituelles invisibles. Il y a maintenant un certain nombre d'années, mais Louis Powell avait écrit un livre intitulé « Le matin des magiciens » qui démontrait que les milieux nazis, Hitler et sa clique autour de lui, pratiquaient l'occultisme à haute dose. Nous pouvons voir en eux, à bien des égards, des marionnettes de ces puissances démoniaques, des principautés invisibles. Cela aussi me semble appartenir à la réalité de la guerre telle que la Bible la laisse voir. Et pourtant, il y a un deuxième volet, étrangement, j'ai intitulé « Nécessité d'après le Seigneur ». Quand nous lisons la Bible, nous voyons qu'elle appelle l'Éternel un homme de guerre, un guerrier. Exode 15, verset 3, le chant de Moïse après l'Exode, désigne le Seigneur littéralement comme un homme de guerre. Et alors, on traduit dans la colombe, la chose est traduite « guerrier ». Et c'est très, très souvent qu'on retrouve cette comparaison pour lui, la manière dont le Seigneur apparaît dans sa révélation. Il y a aussi le psaume 24, hein, qui est sans doute un psaume pour chanter la venue de l'arche dans le temple. Et vous avez le grand cri, « porte, élevez vos linteaux, hissez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée ». Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et vaillant, vaillant guerrier, hein, c'est l'Éternel vaillant de guerre. Et puis l'invitation est répétée, haussez-vous, haussez vos linteaux, haussez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est celui-là, le roi de gloire? L'Éternel des armées. C'est lui, le roi de gloire. Alors, l'expression d'Éternel des armées appelle un mot d'explication à cet endroit. Et nous l'avons d'ailleurs lu il y a quelques instants aussi, dans le passage d'Ésaïe que j'ai lu. Que veut dire exactement Éternel des armées? Beaucoup de gens prennent cette expression dans le sens d'un Dieu qui est du côté des armées d'Israël, qui est là pour leur donner la victoire, qui est un Dieu guerrier, et... guerrier en termes de guerre terrestre, littérale. Je crois que ce n'est pas le premier sens du terme, mais je vais nuancer quand même, n'est-ce pas? J'ai lu divers articles à ce propos. Je crois pouvoir affirmer qu'il y a un assez large accord parmi les spécialistes pour dire que le premier sens, c'est le sens de la souveraineté cosmique du Seigneur. Les armées qui sont en cause, ce sont les armées célestes. Les armées que sont les étoiles, elles sont parfois appelées les armées du ciel, et les armées que sont les anges. Les étoiles pourraient être comme des symboles des anges. Donc le Seigneur des armées, c'est d'abord le Seigneur qui maîtrise tout l'univers. Et d'ailleurs la traduction grecque de l'Ancien Testament a généralement pris ces expressions. Soit le Seigneur des puissances, soit le Seigneur maître de tout. Et cette expression, le Seigneur maître de tout, est reprise dans l'Apocalypse de Jean. Donc, je pense que le premier sens est celui-là. Mais il ne me paraît pas possible de nier que dans quelques cas, la chose s'étend aussi aux armées humaines d'Israël, dont le Seigneur est en quelque sorte le commandant en chef, au-delà des commandants en chef humains. Le texte qui va le plus clairement dans cette direction, peut-être, de tous, c'est celui du premier livre de Samuel, au chapitre 17 et au verset 45. C'est l'histoire du combat de David et Goliath, et au chapitre 17, verset 45, David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi. » Au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des troupes d'Israël, que tu as mis au défi. Là, vous avez comme une apposition et une explication des troupes d'Israël. C'est des troupes rangées en bataille, hein, c'est des rangs, d'après le terme de l'original. Donc, il me semble que dans certains cas au moins, cette pensée de la souveraineté de Dieu sur toutes les armées du ciel s'étend jusqu'à englober aussi les armées d'Israël. Et quand on voit ça, on est bien obligé de tenir compte de tous les ordres guerriers que donne le Seigneur. le Seigneur enjoint à ses serviteurs, à Moïse déjà, il y a des combats pendant le cours de l'Exode, à Josué ensuite, pour la conquête, de combattre. Et ensuite, c'est lui qui suscite David, le mène au combat, qui suscite Saül d'abord, et puis David. Et David, nous est-il dit, a mené les guerres de l'Éternel. Donc, impossible d'effacer de très nombreux passages de notre Bible, cette mention des guerres que le Seigneur a fait mener par les siens. D'ailleurs, pour préparer une guerre, on dit sanctifier une guerre. Dans l'hébreu de l'Ancien Testament, et au chapitre 13 d'Ésaïe, verset 3, Dieu parle de ceux qui lui sont consacrés pour les soldats. Il s'agit manifestement, dans le parallélisme de ce verset, des guerriers, ceux qui me sont consacrés, dit-il. Et peut-être ce qui nous étonne le plus, avouons-le, et parfois choque beaucoup certains, c'est qu'il y a des massacres et exterminations qui sont faites sur son ordre. Et c'est au point que quand Saül, dont les motifs ne sont sans doute pas humanitaires, mais enfin quand même, quand Saül épargne, et qu'il épargne Agag, lorsqu'il ne voue pas entièrement à l'extermination ceux qu'il a vaincus, c'est son péché. Il sera puni pour cette espèce d'indulgence. Là, nous avons des textes qui sont très très forts. Et il ne faudrait pas, me semble-t-il, dire, c'est seulement l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament aussi, en particulier dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 9, versets 13 et suivants de l'Apocalypse, ce sont des anges, disons, c'est l'ange qui opère selon l'ordre de Dieu, qui délie les anges qui sont sur l'Euphrate. Et ce déliement des anges qui sont sur l'Euphrate va permettre l'invasion d'une énorme armée. Littéralement, ça ferait 200 millions de combattants dans une cavalerie. Avec les chiffres démographiques modernes, qui sait, c'est peut-être même pas impossible qu'on puisse prendre ça littéralement. Enfin, je ne suis pas en train de dire qu'il faut le prendre littéralement. Mais c'est quand même déclenché selon le plan de Dieu. Et puis, il y a un verset de la bouche même de Jésus qui est assez étonnant. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 22, dans la parabole du festin, il est question du roi qui est Dieu dans cette parabole, qui veut faire des noces pour son fils, dont les serviteurs qui portent les invitations sont molestés et même tués par certains des invités. Là, c'est très clair, d'autres paraboles nous permettent de le faire très bien comprendre. Il s'agit des chefs du judaïsme, de la manière dont ils ont traité les prophètes et vont traiter Jésus. Les invités même ont été rejetés et tués. Et alors, Jésus dit, le roi fut irrité, verset 7, il envoya son armée, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Tous les je crois, en sont d'accord, c'est une prophétie dans cette parabole de la ruine de Jérusalem, qui est présentée ailleurs aussi comme la sanction divine de ce rejet de tous les prophètes et finalement de Jésus par les autorités d'Israël. Or, c'est l'armée romaine qui a accompli cela, qui a brûlé Jérusalem et fait périr tous ces juifs. Or, Jésus dit son armée du roi qui est Dieu dans ce passage. Donc nous avons, voyez, dans le Nouveau Testament aussi, cette pensée que Dieu utilise des armées sur la terre. Dans tous les cas où nous voyons cela, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, il s'agit de réprimer les abominations des pécheurs. Il s'agit de faire ressortir la justice là où elle a été bafouée, là où les droits des misérables, des pauvres ont été foulés aux pieds. Chaque fois que Dieu apparaît comme celui qui ordonne un mouvement militaire, dans l'Ancien Testament et dans ce passage de Matthieu également, c'est au service de la justice. Et en ce qui concerne les exterminations des peuples cananéens, lorsque Josué a mené la conquête, et ensuite avec Saül et encore David, je pense, je ne vais pas traiter toute cette question, d'ailleurs nous l'avons traité en institut biblique il y a quelques années aussi, mais je cite une parole qui m'a vivement frappé. Il y avait un archéologue qui faisait des recherches sur ces peuples cananéens. Et il disait, après des années de par les armées d'Israël d'exterminer toutes ces populations et de nettoyer ainsi le pays, depuis que je sais ce que c'était, ce qui m'étonne, c'est qu'il ne l'ait pas fait plus tôt. Tant c'était une civilisation horrible. Civilisation où la débauche, la prostitution homosexuelle comme prostitution ordinaire était part du culte, où il y avait des sacrifices d'enfants, enfin c'était quelque chose d'horrible. Et c'est en réplique à ces abominations que Dieu a donné les ordres que nous lisons. Donc, notons cela en tout cas à propos de cette nécessité. Il semble que dans la perspective de la Bible, il peut y avoir pire encore, si horrible que soit la guerre, il peut y avoir pire encore que cela, lorsqu'il y a un régime pervers, oppressif, qui dure. Il semble que ce soit un mal qui soit moindre à certains égards, au moins, que le mal d'un péché qui est à l'aise, dont les structures sont en quelque sorte inébranlées et où le mal se commet sans aucune retenue. Et il me semble, c'est toujours un élément du deuxième volet, que si nous reconnaissons cela, alors nous pouvons comprendre comment il y a aussi des valeurs positives dans le comportement guerrier. La figure du guerrier n'est pas toute négative. Le guerrier, ce n'est pas le truand, ce n'est pas le bourreau, par cruauté personnelle. Il y a une certaine noblesse du guerrier. Il risque sa vie pour la collectivité dont il fait partie, pour sa famille, pour ceux auxquels il est lié. Il risque sa vie. Il fait preuve de courage. La figure du guerrier a aussi sa noblesse, c'est pourquoi elle peut servir d'illustration au Seigneur lui-même appelé homme de guerre. Parce que le guerrier, ce n'est pas l'assassin. Non, c'est une autre catégorie qui correspond à ce deuxième aspect que la Bible enseigne aussi de la guerre. L'intellectuel juif américain Arthur Koestler a d'ailleurs noté que le plus souvent, on fait la guerre par dévotion, par dévouement. On ne fait pas la guerre par haine, on la fait par dévotion à sa patrie. Il y a cet aspect de sacrifice dans le soutien de l'action guerrière. Du coup, j'arrive à mon troisième point, et il sera bref. Du coup, nous devons dire que la guerre est un mal. Oui, c'est le phénomène d'un monde pécheur. S'il n'y avait pas le péché, il n'y aurait pas la guerre, à coup sûr. Et quand il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de guerre. Mais c'est un mal ambigu, à cause de ce que nous venons d'évoquer. Il y a complexité et ambiguïté. Et peut-être, c'est une image de cette complexité, que le premier cheval et cavalier dans la vision de l'Apocalypse que nous avons lue, aussi un peu pour ça que je l'ai choisi, pour la lecture, le premier, le cheval blanc. En fait, les commentateurs hésitent. Ils ne savent pas s'il représente l'impulsion des grands conquérants, le désir d'étendre leur empire d'un Alexandre, d'un César, d'un Napoléon, ou s'il représente la parole de Dieu. Parce que le cheval blanc, en vainqueur et pour vaincre, ça peut faire penser à l'image que le chapitre 19 nous donne du Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu, victorieuse sur son cheval blanc. Alors, vous avez les commentateurs qui disent, ici, c'est la parole de Dieu, qui est aussi un facteur dans l'histoire, Il y a les autres facteurs, famine, violence, cheval rouge, cheval noir. Mais il y a le cheval blanc et la parole de Dieu. Puis d'autres disent non, ici, il n'y a pas d'indication suffisamment nette. Il faut prendre cela dans l'ensemble du chapitre. Ce doit être plutôt l'impulsion guerrière des très grands guerriers de l'histoire. Oui. Et moi, je penche plutôt vers cette deuxième option de la plupart des, disons, d'une bonne moitié des commentateurs, en tout cas. D'ailleurs, c'est un arc qu'il a, et je ne pense pas que l'arme de la parole de Dieu soit l'arc, dans aucun passage. L'épée, oui, mais pas l'arc. Les flèches, elles sont décochées par le malin, le plus souvent en tout cas. Donc, il me semble que nous pouvons y voir le symbole de l'impulsion guerrière. Mais il est quand même significatif, vous voyez, qu'on puisse hésiter. Quand on connaît l'ensemble de l'imagerie biblique, on est en droit de se demander si c'est l'un ou si c'est l'autre. C'est la preuve de l'ambiguïté du phénomène guerrier, dans un monde pécheur, bien entendu. Et à partir de là, il me semble qu'on doit dire qu'il y a deux stratégies pour combattre la guerre. Si la guerre est d'abord un mal, foncièrement un mal, alors quelles sont les deux stratégies? La première, c'est l'usage de la force répressive. Contrer la guerre, par une guerre défensive, neutraliser les agresseurs qui déclenchent les guerres en leur répliquant sur le terrain, en quelque sorte. C'est la manière dont parle la sagesse ancienne des nations. Vous savez, un proverbe latin qui dit « Si tu veux la paix, prépare la guerre ». J'ai noté aussi une citation, dans un livre de citations, de Mao Zedong, qui dit « On ne peut abolir la guerre que par la guerre. Pour qu'il n'y ait plus de fusil, il faut prendre le fusil. » Alors là, il va trop loin. C'est bien l'idée d'une stratégie répressive à l'égard de la guerre. Mais s'il croit qu'il va abolir la guerre de cette façon, alors il se leurre. Et l'histoire de son propre pays le démontre assez bien. Là, Jésus se porte en témoin opposé quand il dit que tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Dieu a donné l'épée aux magistrats pour qu'ils contrent les agresseurs, mais il n'empêche, ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. C'est pas comme ça qu'on aboutit à la paix, véritablement. Et c'est pourquoi il y a une deuxième stratégie, qui est la stratégie alors de l'agneau immolé, qui triomphe, lion de la tribu de Judas, d'une manière tout à fait opposée, en se sacrifiant lui-même, en ne répliquant pas, en ne ripostant pas au mal qui lui est fait, mais en portant lui-même les péchés des coupables. Ça, c'est la deuxième stratégie qui apporte la solution ultime et absolue du problème de la guerre. Comme elle est ultime et absolue, il y a une place encore dans cet intervalle de l'histoire avant la fin pour la première stratégie, mais indubitablement notre joie, notre foi, notre espérance sont fondées sur le fait que c'est l'agneau immolé à qui reviennent la puissance, l'empire et toute la gloire. Alors nous nous inscrirons dans ces perspectives pour essayer de traiter le point plus précis, dans la deuxième étude, de la situation des chrétiens lorsqu'il y a guerre, ou en vue de la guerre. Alors nous avons atteint juste l'heure, comme je l'espérais, mais il peut y avoir encore une ou deux questions, je pense. Monsieur Sidamon.
Mars, un beau dieu de la guerre, avec pour épouse Vénus, la déesse de l'amour. Après, vous avez cité Horace, la guerre détestée des mères. Oui, mais combien de mères sont fières d'avoir un fils, un beau soldat, et si c'est un colonel et un général, merveilleux. Quelle réponse?
La réponse, c'est certainement que la question est difficile. et comme vous l'avez dit vous-même, délicate, et que en 2-3 minutes, je ne vais pas pouvoir vraiment la traiter. Je dirais que je pense bien qu'il y a des communications dans l'inconscient des humains, qu'effectivement, la pulsion d'agressivité qui est dévoyée dans l'action guerrière est aussi en communication avec les tendances à l'amour. Donc ce n'est pas de manière tout à fait dissociée que l'on ne parle pas non plus pour rien de guerre des sexes. C'est un usage métaphorique, comme je l'ai dit. Ça mériterait étude. Mais je ne suis pas sûr d'avoir la compétence de l'aborder. Je ne vois pas de données très claires dans la Bible à ce propos. Sinon qu'on voit bien que quelqu'un comme David est à la fois un homme qui a du succès auprès des femmes, il a plusieurs femmes, hein, et qu'il est un guerrier typique, le guerrier dans les aspects plus nobles du guerrier. Oui, mais certainement, je crois que la psychanalyse aide sur un tel sujet. Et je ne vois pas beaucoup de données bibliques qui porteraient directement sur le sujet. Oui, Madame Berger. Merci bien, je pourrais essayer de faire une place à ce souhait en préparant la deuxième étude. Je voudrais signaler simplement, parce que je l'ai lu malheureusement, j'ai pas pris les références, que je crois qu'il y a eu des chrétiens qui ont prié de manière très spéciale et précise au moment de l'agonie du régime soviétique, et que si le mur de Berlin est tombé comme il est tombé, si le rideau de fer est tombé avec pratiquement pas de pertes humaines, sans guerre, alors que personne n'aurait osé le prévoir, c'est peut-être bien une réponse à une prière définie qui a eu lieu à ce moment-là de la part d'enfants de Dieu. Oui, madame ? Oui. Oui. Alors, je résume la question. En évoquant les bombardements de populations civiles en Irak, madame, qui a éprouvé un fort malaise en apprenant cela, se demande si les églises auraient dû prendre position officiellement à cet égard. Alors, c'est de nouveau une question délicate. Il s'agit des interventions des églises dans le domaine politique. Je crois qu'elles doivent être réservées aux questions grave et en même temps où la réponse est très claire dans la conséquence de la foi. Je pense que certaines églises ont protesté à l'époque et je pense que la question au moins devait se poser, comme au moment de la Serbie plus récemment. Il ne s'agit pas du tout pour moi de dire il ne fallait rien faire. Les problèmes d'information sont terribles avec la guerre moderne. La manipulation d'informations, nous en sommes victimes. C'est un très très sérieux problème. En tout cas, ce que l'Écriture montre nettement, c'est qu'il y a des atrocités commises en temps de guerre qui ne sont pas justifiées quand bien même la guerre elle-même serait justifiée. Et Amos, par exemple, attaque les peuples voisins pour les atrocités commises, qui étaient énormes. Ils en palaient, ils ouvraient le ventre des femmes enceintes, comme sans doute en rigolant. C'était et ça, le prophète le dénonce. Donc il s'agit là de dénoncer non pas la guerre en général, mais les atrocités associées. Et cela me semble être une question morale qu'on peut trancher clairement d'après la Bible. Dernière question, Monsieur Weyenberg.
Est-ce qu'on peut voir la manière de le malin qui a une forme de paupière, d'essayer, d'imiter les actions divines? Est-ce que ce n'est pas là aussi une manifestation où il essaie d'imiter quelque chose, notamment la langue
du Oui, cette pensée me paraît tout à fait intéressante, pertinente. Il se peut bien. Et il faut nous rappeler que si l'adversaire peut imiter ce qui est du côté de Dieu, si l'adversaire peut le faire, c'est parce que de toute façon, il travaille avec les matériaux de la création de Dieu. Tout vient de Dieu et est seulement déformé, défiguré. Mais il en reste encore quelque chose et c'est comme ça que, même, je dirais, dans la personnalité du guerrier, il y a des choses belles qui peuvent ensuite être reprises dans le sens du mal. Voilà, alors je vous remercie pour votre attention. L'étude n'est pas achevée, donc nous reviendrons dans une autre séance à laquelle...